Le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. De nouvelles manifestations contre la proposition de loi sécurité globale sont prévues aujourd'hui dans toute la France et cette fois elles convergent avec les rassemblements contre la précarité. L'exécutif est sous pression.
Hier, Emmanuel Macron a accordé plus de 2 heures d'interview aux médias bruts. Le président de la République est notamment revenu sur la convention citoyenne sur le climat, laissant apparaître son énervement, vous l'entendrez.
On croyait que le conflit touchait à sa fin en Éthiopie, mais non, les combats semblent continuer dans plusieurs parties de la région dissidente du Tigré, selon l'ONU. L'aide humanitaire est toujours difficile à acheminer aux civils.
L'économie marocaine est en détresse. Il s'agit d'une crise sans précédent, selon le roi Mohamed VI, et qui touche tous les secteurs à cause de la pandémie de Covid-19.
Les journalistes de la radio RTL s'inquiètent. Leur rédaction et celle du groupe M6 doivent fusionner à la fin de l'année. M6 a racheté RTL il y a 3 ans. Et dans la deuxième partie des matins, Chloé Cambrelin.
Sur quoi se fonde ou se défait la confiance dans l'État et les institutions, vaccins lycée au-delà, nous en parlons avec le sociologue Alexis Spire.
La défiance envers la proposition de loi sur la sécurité globale n'a fait que grandir ces 15 derniers jours. Samedi dernier, ils étaient plus de 130 000 à manifester en France, selon le ministère de l'Intérieur, 500 000 selon les organisateurs, regroupés dans une coordination intitulée « Stop loi sécurité globale ». Celle-ci demande le retrait des articles 21, 22 et du très médiatisé 24 de la proposition qui, selon elle, porte atteinte aux libertés de la presse et d'expression. L'exécutif a bien essayer d'éteindre l'incendie, mais ça n'a pas l'air de fonctionner, Rosalie Lafarge.
L'article le plus critiqué, le 24, semble pour l'heure neutralisé. Il est même condamné, concède un marcheur bien placé. Cette disposition, qui prévoit de pénaliser la diffusion malveillante d'images de forces de l'ordre, est désormais entre les mains du Sénat. Il va pouvoir la réécrire. Mais les jeux du calendrier parlementaire font que cet article pourrait être entre-temps absorbé par l'article 25 de la loi séparatisme. Elle sera soumise à l'Assemblée a priori en janvier, quand la loi sécurité globale devrait attendre février pour arriver au Sénat. Pour la majorité présidentielle, l'histoire est donc pliée, d'autant plus qu'Emmanuel Macron lui-même l'a assuré hier, il sera toujours possible de filmer et de diffuser des images de forces de l'ordre. Mais le collectif Stop Loi Sécurité Globale dénonce, lui, la cacophonie la plus complète au sein du gouvernement et de sa majorité. Il veut voir cet article 24 disparaître, pas recycler. Il réclame aussi la suppression des articles 21 et 22, susceptibles, selon lui, d'instaurer des outils de surveillance de masse, comme les drones et les caméras. Pour les opposants au texte, la menace plane sur le droit d'informer et d'être informé. Plusieurs syndicats de journalistes s'en sont encore émus hier auprès de Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. Ils demandent maintenant à être reçus par le président de la République et en attendant maintiennent l'appel à manifester. Selon la carte publiée par la coordination Stop Loi Sécurité Globale, plus de 80 rassemblements sont prévus dans le pays.
Emmanuel Macron, qui était donc hier soir interviewé en direct sur le média en ligne Brut par notamment Rémi Buisine, un journaliste frappé par un policier lors de l'évacuation brutale des migrants installés place de la République à Paris. Violence policière, discrimination, crise sanitaire, le chef de l'État a aussi été interrogé sur l'écologie et sur ce thème, le président a perdu son calme, Élodie Forêt.
Accusé de ne pas tenir compte des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, Emmanuel Macron s'emporte.
J'ai 150 citoyens, je les respecte. Mais je ne vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible.
Un truc, voilà donc comment il qualifie désormais le travail réalisé par les citoyens. Certes, une expérience démocratique inédite qu'il a lui-même voulu, mais rien qui ne remplace le travail des parlementaires, assène Emmanuel Macron. Parlementaires qui travaillent d'arrache-pied pour rendre des propositions réalistes, exemple avec les passoires thermiques.
Est-ce que, en conscience, on va aller au bout du bout, qui est un moment de dire on met une pénalité très forte ou l'interdiction de vendre, où on met le curseur. Donc il faut qu'en même temps on pense l'accompagnement à la chose. Ils n'ont pas, et ce qui est normal, tout prévu, tout pensé.
D'un côté les pragmatiques, donc travaillant à une écologie du quotidien, de l'autre des utopistes, le militant écolo Cyril Dion en tête.
Que un citoyen qui m'a aidé à avoir cette idée ne fasse pas de caricature en disant c'est à prendre ou à laisser, vous devez l'appliquer tel quel. Ça c'est la solution des fainéants. Personne n'a autant fait que nous depuis 3 ans. On a arrêté des projets que tout le monde laissait traîner et ne voulait pas arrêter. Notre-Dame-des-Landes, la montagne d'or, qui l'a arrêté? Donc moi, j'ai pas de leçon à recevoir.
S'agacer, le meilleur moyen de noyer le poisson, ironise Greenpeace dans un communiqué dénonçant une future loi climat très insuffisante.
Et l'un des 150 citoyens tirés au sort pour participer à cette convention citoyenne a réagi. On a eu plusieurs fois des échanges autour du contrat moral. On note qu'il n'est pas respecté, regrette Sylvain Burquier. Bonjour Alexis Spire.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces propos du chef de l'État ? Risque-t-il encore d'affaiblir le lien de confiance entre les citoyens et le gouvernement ?
Ces propos en eux-mêmes, pas forcément, mais c'est surtout qu'il faut les prendre comme un symptôme, en fait, hein, un symptôme du décalage grandissant entre des discours qui sont toujours prompts à prôner la démocratie, la participation des citoyens, et voilà, et puis le décalage dans les faits, dans les décisions qui sont prises. Et je crois que, il y a quelque chose dans ce divorce entre la promesse de démocratie, la promesse de participation et les faits et les rapports concret des citoyens aux actions et aux décisions qui sont prises, qui en fait forment tout un ensemble et tout un contexte qui effectivement conduisent à produire de la défiance entre citoyens et élites politiques.
Merci Alexis Spire. Vous reparlerez plus longuement de confiance et de défiance après ce journal avec Chloé Cambrelin. Les marches des libertés aujourd'hui sont rebaptisées des libertés et des justices. Les manifestations contre la proposition de loi dite de sécurité globale vont souvent se tenir en convergence avec les actions menées dans le cadre de la journée nationale contre le chômage et la précarité. Manifestation à l'appel de l'intersyndicale menée par la CGT. La crise sanitaire liée au Covid-19 a aggravé la situation des plus précaires, Laura Dulieu.
Corinne a 60 ans, elle est au chômage depuis un an et demi. Et comme pour la plupart des chômeurs, le Covid et le confinement ont mis un coup d'arrêt à sa recherche d'emploi.
Le problème du Covid est venu s'ajouter aux autres problèmes. Le premier problème, je pense déjà, c'est mon âge, 60 ans. Le deuxième problème, c'est que je ne suis pas diplômée. Et c'est plutôt dans des petites associations que je pourrais trouver du travail. Toutes celles-là, elles ne travaillent quasiment pas avec le Covid et puis surtout, elles n'embauchent pas parce qu'on ne sait absolument pas où on va.
Alors même si les chiffres du chômage depuis le printemps n'augmentent pas démesurément, la Banque de France prévoit la destruction de 800 000 emplois cette année et un bond du chômage pour début 2021. Selon Pierre-Édouard Magnan, le président du Mouvement national des chômeurs et des précaires, ce n'est que le début.
Pour l'instant, on va dire un peu tous les amortisseurs brinque-ballant mis en place par le gouvernement jouent un minimum leur rôle. Il n'y a pas encore eu tant de faillites que ça, par exemple, pour l'instant. Malgré tout, on a renoncé à la mise en œuvre de la nouvelle convention d'assurance chômage, par exemple. Mais le 1er avril prochain, la situation des chômeurs et des précaires, elle va pas miraculeusement s'améliorer. Donc ça va être quand même effectivement absolument redoutable.
Et déjà début octobre, les associations caritatives alertaient. La pandémie a déjà fait basculer 1 million de Français sous le seuil de pauvreté.
Et le nombre de personnes décédées à l'hôpital du Covid-19 est passé sous la barre des 300 au cours des dernières 24 heures. La décrue en réanimation se poursuit selon Santé publique France. 30 personnes, pas plus, aux obsèques de Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président de la République sera enterré ce matin dans le Loir-et-Cher. Une cérémonie à Autun dans la plus stricte intimité familiale, comme il le souhaitait. Et il se trouve que la crise sanitaire ne permet pas de toute façon de faire plus. VGE, comme on le surnommait, est mort mercredi soir des suites du Covid-19. Il avait 94 ans. L'actuel chef de l'État a décrété un jour de deuil national mercredi prochain. Portrait, rediffusion et analyse sur notre site franceculture.fr.
Il est 8h09, Margot Delpierre. En Éthiopie, le gouvernement fédéral avait annoncé il y a une semaine sa victoire et la fin du conflit avec la région dissidente du Tigré. Mais les combats semblent continuer.
C'est ce qu'affirment des sources diplomatiques et le Front de libération du peuple du Tigré qui défie l'autorité du gouvernement fédéral depuis plusieurs mois. Dans la région, les télécommunications sont toujours coupées. Plus de 3 millions de personnes auraient besoin d'une aide humanitaire qui tarde à arriver, notamment car le gouvernement éthiopien limite l'accès aux zones qui sont sous son contrôle. Et c'est inacceptable, estime l'Union européenne, Noé Hochebaudin.
En visite au Soudan et à Addis Abeba, le commissaire européen pour la gestion des crises, Yanez Lenarčič, demande davantage d'efforts aux autorités éthiopiennes, notamment pour donner un accès humanitaire complètement libre et indépendant au Tigré.
Ce sont les organisations humanitaires qui décident où, quand et à qui elles peuvent porter assistance. Cela ne doit pas être décidé par le gouvernement. Les limites imposées sont inacceptables.
is not acceptable.
L'Union européenne tente encore de raisonner les différentes parties du conflit. Il est encore trop tôt pour parler de pression financière, assure-t-il.
Nous n'y sommes pas encore et je ne peux pas prédire si nous arriverons à ce point. Aujourd'hui, nous sommes à un stade où nous demandons de façon respectueuse de se conformer aux normes internationales.
Principal obstacle à la gestion de crise, selon Janez Lenarčič, le blackout des télécommunications. La province est toujours coupée du monde depuis plus d'un mois maintenant.
Si vous voulez lutter efficacement contre la désinformation, ouvrez donc le Tigré, restaurez les télécommunications, donnez un accès aux humanitaires et autorisez les enquêtes pour faire la lumière sur les atrocités commises. C'est pas compliqué.
Pour l'heure, toujours aucun convoi humanitaire n'a pu intervenir au Tigré.
Noé Hochet-Baudin. Autre urgence au Maroc. Le pays lutte difficilement contre la propagation du Covid-19. L'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis la mi-mars vient d'être prolongé d'un mois. Le royaume enregistre 360 000 cas et près de 6 000 décès. Une situation qui fragilise l'économie marocaine et oblige les autorités à s'endetter auprès du FMI, Christian Chesneau.
Pour sauver une économie marocaine en pleine détresse, le roi Mohamed VI a sonné la mobilisation générale. Dans une adresse au Parlement, le souverain a parlé d'une crise sans précédent, signe de la gravité de la situation. Tous les secteurs sont affectés, à commencer par le tourisme, plombé par la quasi-fermeture des frontières et la raréfaction des visiteurs étrangers, et notamment européens. Quant à l'industrie, textile ou automobile, elle est durement impactée par le ralentissement de l'activité mondiale. Un malheur ne venant jamais seul, le Maroc est également sévèrement frappé par une sécheresse redoutable. Le taux de remplissage des barrages plafonnait à moins de 37% fin octobre contre un peu plus de 45% à la même période l'année dernière. De nombreuses cultures sont privées d'irrigation, or le secteur agricole est le premier contributeur de la richesse nationale avec 14% du PIB devant le tourisme et l'industrie. Au niveau national, la Banque centrale marocaine a aggravé ses prévisions de récession pour 2020, tablant sur une contraction de 6,3% liée au redémarrage plus lent que prévu de l'activité. Autant dire que le Maroc a hâte de tourner la page de 2020, année noire sur le plan sanitaire, en espérant une embellie en 2021 pour enrayer l'hémorragie économique et sociale qui pourrait déstabiliser le royaume. En attendant, rapporte le quotidien L'Opinion, Rabat pourrait encore recourir au FMI pour obtenir une nouvelle ligne de crédit après avoir déjà contracté 3 milliards de dollars pour financer la gestion de la crise sanitaire.
Le Maroc qui espère lancer sa campagne de vaccination dès la fin de l'année. Les conditions d'un accord post-Brexit ne sont pas réunies entre l'Union européenne et le Royaume-Uni qui veut en sortir. Après une semaine de discussions intensives à Londres, le négociateur européen Michel Barnier annonce une pause. Le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne doivent s'appeler cet après-midi. Les Européens espèrent un accord avant la fin du week-end pour qu'il soit ratifié à temps par le Parlement européen et ainsi entrer en vigueur avant la fin de l'année. Ensuite, les Britanniques cesseront d'appliquer les normes européennes. Il y a aussi une échéance dans quelques jours pour les salariés de RTL. Ils ont appris récemment que le groupe M6, auquel la radio appartient, allait fusionner les deux rédactions à partir du 31 décembre. Depuis le rachat de RTL par M6 il y a 3 ans, plusieurs structures des deux médias ont déjà fusionné certaines équipes, mais la rédaction de RTL restait attachée juridiquement à la société Information et Diffusion, qui va donc disparaître. Les journalistes de la radio réclament des comptes à la direction Maïwenn Bordron.
M6 met en avant une simplification juridique. La direction du groupe, contactée par France Culture, insiste sur le fait que la fusion juridique des structures n'est pas synonyme de fusion opérationnelle entre les deux rédactions. À partir du 31 décembre, la société Information et Diffusion, à laquelle M6 était jusque-là juridiquement attachée, va donc disparaître, mais cela n'aura pas de conséquences sur le fonctionnement des deux rédactions et sur leur projet éditorial. Des explications qui ne convainquent pas la société des journalistes de RTL. La SDJ interroge sur l'avenir de la radio à court, moyen et long terme. Les journalistes vont-ils être tous amenés à faire de la radio et de la télévision? Et si oui, avec quels moyens? Autant de questions restées sans réponse selon la SDJ de RTL qui dénonce un flou autour de cette fusion. Ce rapprochement des deux rédactions était prévisible, on savait à quoi s'attendre. C'est la fin de la digestion de RTL par M6, confie un membre du bureau de la SDJ. Les journalistes n'ont aucune réticence à faire de la télévision. Au contraire, il existe même déjà une perméabilité entre RTL et et M6 avec des passerelles entre les deux rédactions, mais ils exigent des détails sur le projet éditorial. La direction du groupe, de son côté, dit comprendre ces inquiétudes, mais estime qu'elles ne sont pas fondées, puisqu'il s'agit seulement, je cite, d'une affaire juridico-administrative.
9 700 000 euros, c'est le montant des promesses de dons au Téléthon cette année qui récolte des fonds pour faire avancer la lutte contre les maladies rares pour donner composé le 36-37. Météo France maintient la vigilance orange, pluie, inondation et orage en Corse du Sud jusqu'à ce matin. Le temps sera gris, pluvieux dans l'ouest, un peu plus lumineux dans l'est. Comptez au maximum 6 degrés à Lyon, 9 à Brest et 10 à Perpignan. 8h15.